Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique.
Et autour de moi ce soir pour cette dispute consacrée aux arts plastiques, Ingrid Luquet-Gade, Sarah Hillermeyer et Florian Guettet. À notre programme, Théo Mercier, Every Stone Should Cry, au musée de la chasse et de la nature à Paris jusqu'au 30 juin. Gigantisme, art et industrie, la première édition d'une nouvelle triennale art et design qui se tient jusqu'à janvier prochain à Dunkerque. Il y aura un petit salon tenu ce soir par Boris Pinault et consacré à cette épineuse question, faire l'expérience d'une œuvre d'art en son absence. Et puis il y aura un coup de cœur d'Ingrid Luquet-Gade. Il ira à l'exposition de Jean-Charles de Quillac, Ma système reproductive, à Béton Salon, à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec Every Stone Should Cry, toute pierre doit pleurer. Théo Mercier réinvestit l'hôtel particulier du musée de la chasse et de la nature, rez-de-chaussée et collection permanente. Alors, citons rapidement Théo Mercier, 35 ans, découvert il y a une bonne dizaine d'années, devenu très vite la coqueluche du milieu, nommé il y a quelques années au prix Marcel Duchamp, exposé dans le monde entier. Il travaille souvent à partir d'objets collectionnés au gré de voyages, fossiles, vrais ou faux, fétiches de l'ère industrielle made in China, etc. Des objets qu'on retrouve en abondance dans cette nouvelle exposition. Alors un mot, un seul peut-être déjà des uns et des autres. Quelle impression vous a faite votre visite au musée de la chasse et de la nature, Florian Guettet?
Théo Mercier confirme en trouvant son terrain de jeu favori qui lui va très très bien. Et puis je trouve que ça appuie une dimension de scénographe chez lui qu'il hérite de son passage à la scène.
Ingrid Luquet-Gade.
Je trouve qu'il n'y a pas un grand recul par rapport à l'idée annoncée d'un musée d'histoire artificielle. Théo Mercier n'a pas la légèreté du camp, je le trouve plutôt pâtissier et cynique.
Sarah Hillermeyer.
Une exposition que je trouve plutôt séduisante et maligne et dans un musée qui semble effectivement être fait sur mesure pour Théo Mercier.
On va l'écouter un petit peu Théo Mercier puis on en reparle après.
Je pense que la vocation première quand même de l'œuvre d'art est quand même, je suis là pour ça aussi, pour déranger. Moi je pense pas un provocateur, mais en tout cas j'aime déranger dans le sens de poser des questions. Voilà, je pense que je suis dans une société qui donne assez peu de liberté aux gens qui regardent, aux gens qui goûtent, aux gens qui écoutent. Et c'est vrai que je pense que l'œuvre d'art a pour vocation aussi de... Voilà, au même titre que moi, je suis libre dans ma pratique, j'aime que le spectateur soit libre dans sa manière de regarder.
Je le disais, Théo Mercier investit à la fois l'espace du rez-de-chaussée, qui est l'espace des expositions temporaires, et puis aussi les collections aux étages. Florian, qu'est-ce qu'on voit dans le premier, déjà, au rez-de-chaussée?
Alors comment on y pénètre, surtout, puisqu'on doit prendre des protections pour chaussures. C'est un salon recouvert de moquettes. La moquette remonte jusqu'à la moitié du mur, à peu près. Il y a toute une étagère en fait courante sur tout le périmètre de la salle, où on trouve des objets qui ont l'air d'être des bibelots de décoration ou des objets de curiosité. Et à première vue, on ne sait pas s'ils sont factices ou non. Alors il y a des pierres qui sont polies, moussues, sculptées, fossilisées. Il y a des fleurs, des fruits, des coraux, des œufs, des coquillages, des roues hamsters, des maisons miniatures. Et puis au centre, des sculptures totems qui sont aussi des présentoirs ou des arbres à chat. On ne sait pas bien les définir non plus. À échelle humaine en tout cas. Et ces objets duplices, en fait, petit à petit, se révèlent leur étrangeté. On a des membres, par exemple, sujets à fétiches, des pieds, des mains, des seins qui viennent sortir des bibelots, par exemple, des coquillages, pardon. et puis des boules par exemple accrochées à des chaînes qui d'un coup deviennent, au lieu d'être des jeux, deviennent aussi des instruments de domination, BDSM. La salle divisée en deux espaces, on va dire, séparés par des rails de cloisons, en fait, des armatures métalliques, derrière lesquelles on trouve trois grandes pierres artificielles, pour le coup on le voit, qui ressemblent aux pierres d'aquarium, hein, qui sont chères à Théo Mercier depuis des années, on les voyait déjà à Montrouge il y a 10 ans, de telle sorte qu'on se retrouve nous-mêmes en fait comme prisonniers de cet aquarium. Alors, il y a vraiment cette image du chaquarium de François Cusset qui saute un peu aux yeux, mais c'est une façon assez ludique et assez divertissante de nous faire glisser de point de vue, et d'un coup on se découvre nous-mêmes piégés comme ces hamsters qui tournent à vide dans leur roue, comme si on était finalement nous-mêmes faits comme des rats.
Sarah Hilaire-Meyer, vous poursuivez peut-être en nous expliquant comment il investit les autres espaces. Qu'est-ce qu'on y voit? Vous pouvez choisir quelques pièces parce que c'est il y a beaucoup de choses.
Et bien, en montant à l'étage, donc il investit les collections permanentes en proposant finalement de salle en salle des sortes de pieds de nez. Parce qu'on est accueilli par un immense cheval écorché qui dégouline de sang, qui a une langue pendante et qui est entouré de représentations de la chasse aux sangliers. Quand on continue, on tombe également sur une collection d'os pour chiens en plastique coloré, qui est une pièce reconnue de Théo Mercier, et qui est entourée notamment aussi de portraits des chiens de Louis XIV, avec également des colliers en métal ou en verre qui ressemblent à nouveau à des objets un peu BDSM, mais qui appartiennent aux collections en fait du musée de la chasse. Et puis on trouve également par exemple une collection de refuges pour hamsters, mais vidés de leurs petits habitants, et donc exposé au regard. Une collection aussi de squelettes mis dans des positions sexuelles, érotiques, et qui a pour titre cette pièce-là « Happy Ending ». Je dois dire que je trouve ça quand même plutôt amusant. Et on trouve également dans une autre salle, par exemple, une accumulation de masques africains, ou du moins africanisants, dans une vitrine, dans la salle qui s'appelle la salle des trophées. Cette pièce s'appelle « Massacre », donc c'est assez signifiant. Et dans les dernières salles, on trouve là par contre d'immenses sculptures totems qui consistent en des assemblages de barquettes d'œufs industrielles sur lesquelles il y a des jarres du XVIIe, XVIIIe siècle. On ne sait pas si c'est des vraies ou des fausses. Également, dans ces assemblages, il y a des fausses pierres, des pneus, des œufs à nouveau. Et le tout étant toujours dans des équilibres qui paraissent instables en tout cas, comme au bord de l'effondrement. Donc, ce qui en fait en quelque sorte des vanités contemporaines ou des archéologies du futur.
Ingrid Luquegade, alors rentrons un peu dans le vif, on a compris que c'était pas votre tasse de thé, exposition. Alors
effectivement,
pourquoi?
Effectivement, Théo Mercier, on l'a dit, hein, c'est un artiste du simulacre, du théâtral, qui est également metteur en scène. L'invité au musée de la chasse, dans ce bibelot comme ça, dans son jus extrêmement orné, ça faisait sens.
Il faut dire que c'est un hôtel particulier, voilà. Très Second Empire. Ouais, ouais.
Mais j'ai l'impression justement qu'il y a chez lui une espèce de fascination par rapport à ce contexte, dont il arrive assez mal à se détacher au final. J'ai l'impression que ces pièces, justement, insérées, enchâssées dans ce contexte, ne produisent pas grand-chose d'autre qu'une espèce de reproduction de ce qui est déjà là, et que ce seraient des pièces qui tiendraient pas forcément toutes seules si on les enlevait de ce contexte. Moi, j'aurais aimé, au contraire, hein, qu'il assume cette pulsion vers le décoratif, vers le simulacre qui est très présente chez lui, et qu'il fasse davantage un opéra baroque et grandiloquent, plutôt qu'une espèce comme ça de ricanement un peu cynique, où j'ai l'impression qu'il se sent peut-être obligé d'embrasser une posture d'artiste contemporain qui doit forcément avoir un recul sur le contexte dans lequel il est. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de forme de critique institutionnelle prise du côté de la blague, d'une lol critique institutionnelle, et qui au final en fait est dans une espèce de reproduction un peu ironique et un peu cynique de ce qui est là.
Florian Guettet.
Ouais, moi je pensais que je suis pas un grand admirateur de son travail sur scène, précisément parce que je trouve que la force plastique écrase énormément l'action. Et dans un contexte de musée, je trouve que son travail de metteur en scène de musée ou d'espace muséal lui va plutôt bien et qu'il le réussit assez subtilement. Effectivement, il y a beaucoup de discrétion dans ses intrusions, dans ses infiltrations. Il n'y a pas de cartel, par exemple. Donc souvent, on peut être tenté comme ça de chercher où est le vrai, où est le faux. Moi, son travail m'intéresse toujours et m'interpelle parce que il arrive à créer quand même des situations affectives assez paradoxales. En gros, moi, je me suis ressenti angoissé dans la mignonnerie, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Effectivement, il y a une forme de cynique, de ricanement, ça c'est évident. je crois que c'est pas fait pour me déplaire non plus. J'aime bien cette insolence-là. Je la trouve assez assez délicieuse en fait. Et même quand elle est voilà, quand elle y va pas, quand elle fait pas dans la dentelle.
Mais est-ce qu'elle est vraiment efficace, parce que l'insolence ça a une efficace.
Moi je trouve qu'elle est efficace dans la mesure où d'une part il arrive à c'est un peu la conscience heureuse de la mondialisation. C'est-à-dire je pense vraiment qu'il arrive à niveler comme ça toutes les hiérarchies, les époques, les systèmes de valeurs, et qu'il arrive à trouver un juste milieu qui moi m'impressionne assez. C'est-à-dire que on se retrouve quand même dans des hybridations où il y a toujours voilà un poids qui balance d'un côté ou dans l'autre, alors que lui je trouve qu'il est quand même dans un équilibre assez fou, où on est tout le temps en train de se poser la question de ce qu'on a en face de nous. Cette incertitude, ce sentiment d'incertitude face à des œuvres, rejoint ensuite l'incertitude de son sujet. Cette conscience du désastre qui arrive, mais dont on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. De toute façon, on ne sait même pas si on peut encore y faire quelque chose. Donc peut-être, effectivement, il vaut mieux en sourire, en tout cas. Il y a par exemple une pièce qui m'a vraiment fait cette impression-là, c'est après le cabinet des chiens, vous avez une sorte de petit renfoncement avec, donc assez discret là aussi, on peut passer à côté sans la voir, avec toute une pièce de cage vide, de cage à hamster vide, avec justement les mêmes éléments de décoration qu'on retrouve au rez-de-chaussée. Et au début, on va trouver ça plutôt amusant, et puis d'un coup, on se retrouve isolé dans cette solitude-là, face à des prisons, et nous-mêmes, on se sent par projection dans ce système carcéral-là. Donc je trouve que c'est toujours comment on arrive à avoir une prime de séduction, c'est-à-dire comment il arrive quand même à nous amener voilà, avec de façon très inoffensive dans son univers, et puis une fois qu'on y est, bah, en fait, on s'y sent pas si bien qu'on aurait cru.
Oui, la question du factice, elle est assez intéressante à mon avis, parce qu'il y a à la fois les choses qui sont vraies et les choses qui sont fausses, et il y a aussi les choses en effet qui appartiennent au musée et les choses qu'il a rajoutées. Et la différence, elle n'est pas évidente, moi je trouve, pour toutes les pièces dans les salons des collections permanentes. Sarah Hillermeyer.
Oui, mais justement, comme c'est vrai qu'on pourrait considérer le prime abord que le travail de Théo Mercier est parfois un peu gratuit ou relève d'une simple blague, mais je trouve qu'il y a justement toujours une épaisseur et des enjeux théoriques plus importants qu'il n'y paraît. Notamment, bon, là, l'enjeu premier de cette exposition, et notamment de ce qui est installé dans la salle d'exposition temporaire, c'est d'inverser, en fait, enfin, c'est de jouer sur les rapports homme-animal, et d'inverser les rapports de domestication, en faisant de nous, en quelque sorte, les cobayes, hein, d'une litière ou d'un aquarium à échelle humaine, et en faisant de nous, finalement, les hamsters d'un bonheur, comme ça, domestiqué. Mais plus fondamentalement, ce que fait Théo Mercier, c'est des sortes d'assemblages en fait de formes et de sens, notamment entre des mondes justement qui sont a priori opposés, le naturel, l'artificiel, l'animé, l'inanimé, comme vous l'avez dit avec sa collection de fausses pierres d'aquarium et de vrais fossiles, ou par exemple, on voit aussi dans cette exposition des vases avec un sourire grimaçant. Donc c'est autant de manières dans cette exposition, finalement, de témoigner du fait que nous, êtres humains, on vit moins peut-être, comme cela d'ailleurs est dit hein, dans certains textes, directement avec la nature qu'avec une idée de la nature qui varie, qui se transforme au gré des époques et des cultures. Et puis aussi ce mélange entre artificialité et naturel, ça correspond aussi à un état du monde qui est le nôtre, celui des biotechnologies, où justement l'artificiel et le naturel se confondent plus que jamais, si tant est qu'ils aient un jour été séparés. Puis il y a d'autres enjeux, moi je trouve, qui sont des propositions qui sont, par exemple, la pièce qui s'appelle Massacre, qui donc consiste en une accumulation de masques dans la salle des trophées.
De faux masques,
hein, africains dans la salle des trophées. Ça vient, d'une certaine manière, faire le lien, justement, entre la domination de la nature par l'homme, hein, qui est très explicitement à l'œuvre dans ce musée, et le colonialisme. Pourquoi ? Parce que finalement, l'un comme l'autre ont peut-être le même fondement, on va dire, idéologique, qui repose sur la séparation finalement entre sujet, objet, esprit, matière. Séparation qui recouvre le découpage que l'on fait entre humain et nature, homme, femme, ou même blanc, noir. Et les seconds étant, dans cette vision du monde, considérés comme appropriables et exploitables par les premiers. Donc en fait, il y a toujours, je trouve, à la fois une très grande séduction visuelle et plastique, et en même temps, une épaisseur comme ça, théorique, assez importante.
Ingrid, Luc Egan, oui, il y a un hiatus entre les deux, peut-être, entre le côté joli.
Je vois assez peu, justement, cette question de l'individu, de l'entre-deux, comme je vois assez peu Théo Mercier au final dans l'exposition, puisque j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de contraster deux formes de display, c'est-à-dire le display du musée d'art contemporain, qu'on comprend effectivement en rentrant dans la salle d'exposition temporaire avec les chaussons, avec la moquette, avec un néon qui est beaucoup trop fort, pour vraiment qu'on puisse prendre la mesure du contraste de cette autre forme de cabinet de curiosité qui au final est aussi une espèce d'anticipation du White Cube. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce, c'est pour ça, il y a une espèce de mise en contraste de deux manières de placer les choses sur des socles, et qu'au final, il est assez peu question des socles en eux-mêmes ou de la perception qu'on pourrait avoir intériorisée dans une question beaucoup plus corporelle qui se passerait de ces systèmes de monstration-là. Donc j'ai l'impression que l'humain est assez peu présent, et que si l'humain n'est pas présent, on ne peut pas faire ces distinctions beaucoup plus fines, justement, entre les genres, entre les règnes, tout ce qu'il essaye d'amener par ailleurs quand on lit le texte de l'exposition, qui est beaucoup plus clair en fait que ce qu'on voit dans la matière.
Florian Guettet.
Moi, je crois que j'ai pas boudé mon plaisir de voir un artiste autant investir le terrain de l'illusionnisme. C'est-à-dire vraiment, je pense, c'est un illusionniste, et c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire de savoir faire nos propres illusions sur le monde. Alors vraiment, cette question du désastre, de la catastrophe arrivée, de justement ce renversement délétère des rapports entre animal et humain, doit nous inquiéter, mais finalement, nous créons des fantasmes par-dessus qui ne sont pas des illusions agissantes. Et lui, j'ai l'impression qu'il crée des illusions agissantes. Par exemple, les pièces qu'a décrites Sarah, qui sont donc des pièces totems, où on a l'impression qu'elles sont menacées d'effondrement, par exemple parce qu'elles sont disposées sous un rocher, lui-même tenu par une corde, donc évidemment un faux rocher, mais enfin, on le sait pas de suite. Ou alors c'est des statues ou des sculptures, pardon, montées sur ressorts ou sur pneus, et donc à chaque fois elles menacent de s'effondrer. Il y a quelque chose quand même qui nous réconcilie dans l'illusion avec un sentiment, lui, bien réel, un affect qu'on a peut-être un peu oublié, qui est justement cet affect de la menace, de l'effondrement, et de pouvoir nous réconcilier ou remédier en fait à la perte de ce sentiment-là. Donc effectivement, l'humain n'est pas excessivement présent, il est même vraiment désaffecté, enfin, il n'est absolument pas présent, mais peut-être qu'il y a un moyen par les affects de retrouver cette humanité-là.
Sarah Ellermeyer.
Oui, après pour l'absence de l'humain, il est en même temps extrêmement présent, il est au centre, hein, mais de manière indirecte, hein, ne serait-ce que par les objets qui sont issus de l'industrie, tous les objets que justement l'on destine aux animaux. Après, je rejoins aussi Florian sur cette idée qu'il y a une mise en scène à chaque fois, enfin assez fréquente en tout cas dans ses œuvres, d'un effondrement possible. Et c'est, enfin je trouve qu'il aborde cette idée-là qui rejoint une vision un peu anthropique, hein, du temps qui serait voué à un effondrement final, une sorte de chaos qui rejoindrait un état initial. Il aborde avec beaucoup d'humour et de légèreté, et c'est ce qui, je trouve, rend son travail d'autant plus séduisant.
Florian Guettet, vous parliez en introduction de son travail de scénographe et de metteur en scène, c'est quelque chose de relativement nouveau pour lui. Vous le voyez où, justement, dans cette exposition au musée de la nature, de la chasse et de la nature?
Alors, dans sa façon de créer justement des effets de suspense ou d'attente, hein, je veux dire, il y a vraiment une dramaturgie très très claire là-dessus. Il y a un cheminement qui nous-mêmes nous positionne dans une forme de d'enquête, ou enfin en tout cas dans un parcours d'enquête qui rend quand même le parcours extrêmement ludique, et voilà, qui touche quelque part au jeu. Il y a tout un travail sur le costume qui est très présent, et sur des costumes qui sont effectivement des doublures d'ornements. On a parlé de ces chiens en céramique recouverts de masques de perles et de joyaux. Et puis il y a une façon très séquencée de proposer cette exposition-là, donc en commençant par une sorte de précaution de notre part à mettre ces petits chaussons et donc de rentrer dans un espace un peu incertain, parce que effectivement trop exposé à la lumière, avec de la moquette qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc d'emblée, il nous met dans des conditions aussi qui ne sont pas les conditions, on va dire, du client de musée d'art traditionnel. On est beaucoup plus dans la précaution du spectateur de théâtre qui rentre dans la salle noire. Et ce jeu de déplacement, en fait, se reproduit quand même tout le long des trois étages d'exposition.
Ingrid Luquegat, un dernier mot.
Ouais, alors moi j'ai trouvé qu'on était justement, ce côté un peu démonstratif qui me gêne beaucoup, c'est de dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est-à-dire, quand on se rend compte que quelque chose est faux, c'est un peu comme le trick du magicien. Au final, une fois qu'on sait que c'est faux, l'effet s'effondre. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que ces pièces pourraient peut-être pas forcément tenir hors de ce contexte-là. Et ce qui me gêne, c'est qu'on est renvoyé quand même à une idée assez 80 du simulacre chez Baudrillard, que j'ai l'impression qu'on a vraiment dépassé. En fait, on n'est plus trop dans la question de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais plutôt comment s'orienter dans un monde où tout, au final, serait peut-être factice, mais voilà, où c'est peut-être à l'humain, au spectateur et à l'artiste de nous donner un peu des pistes pour s'orienter à travers ce chaos-là de signes. Or, j'ai l'impression qu'il rajoute surtout de la confusion en disant, bon, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Et au final, ça produit pas grand-chose.
Théo Mercier, Every Stone Should Cry, c'est jusqu'au 30 juin au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. À suivre dans la dispute gigantisme à Dunkerque, le coup de cœur d'Ingrid Luckegaard et le petit salon de Boris Pinault.
France Culture. La dispute.
Et nous poursuivons cette dispute avec un événement premier du nom, Gigantisme, une triennale art et design qui se tient à Dunkerque, dans plusieurs lieux de la ville et ses alentours, mais surtout le Fonds Régional d'Art Contemporain et le lieu d'art et d'action contemporaine, et qui entend, je cite, repenser à l'échelle du paysage dunkerquois une histoire de la modernité européenne de 1947 à nos jours, entre patrimoine vivant et création contemporaine. Alors attention, un seul mot sur un vaste programme, défi lancé. Sarah Hillermeyer.
Je dirais une grande et belle exposition muséale, mais pas vraiment une triennale.
Ingrid Luckegaard.
Oui, effectivement, la triennale, elle n'est pas tant gigantesque par ses œuvres que par son ambition d'être une relecture de l'histoire de la modernité européenne.
Florian Guettet.
Oui, je reprendrai le mot d'ambitieux. Je trouve que c'est un projet ambitieux, peut-être un peu écrasé par un sujet lui-même imposant.
Luckegaard, c'est à vous qu'il nous revient de détailler cette mise en espace globale de la triennale. Où est-ce que ça se passe? Comment ça se partage entre les différents espaces à Dunkerque?
Alors, gigantesque, d'abord, il faut le préciser, on l'a un peu abordé, hein, c'est pas tant des œuvres justement gigantesques parachutées dans l'espace public. C'est plutôt une exposition en deux volets sur trois lieux, dont la première partie de 21 installations in situ dans la ville. En fait, se négocie plutôt bien le contexte dans lequel se trouvent les œuvres. Ce sont des interventions assez fines, où l'on sent d'ailleurs une tradition de mécénat d'entreprises locales qui a déjà implanté beaucoup d'œuvres dans la ville depuis les années 70. Donc on a des créations au final assez en accord avec le paysage industriel de la ville, qui sont réparties à la fois en bord de port et dans la halle AP2 du FRAC, ce qui est une nouveauté puisque cette halle était l'ancien atelier de préfiguration des chantiers navals qui d'habitude n'est pas investi puisqu'elle est laissée vierge et que le FRAC, le bâtiment du FRAC par la Coton et Vassal, est seulement la réplique de ce halle. Donc parmi les œuvres dans la ville, on a notamment une installation de Matt Mullican qui a implanté des drapeaux dans le bassin du commerce. On a également une grande fresque de Tania Moureau qui déroule ses rubans de texte tout autour de cuves de terminal du stockage du terminal Ruby. Et des conteneurs de Nathalie Brevet et Hugues Rochette qui ménagent par un rideau d'eau une autre perspective sur la ville. Donc ces installations-là, en réalité, ne sont pas vraiment le cœur de l'exposition, puisque c'est plutôt un prolongement de ce qui est là. Le cœur de cette triennale, d'ailleurs c'est un lapsus, c'est une exposition en deux parties qui se trouve, donc, comme on l'a dit, au lac et au FRAC. Et cette exposition-là est justement un peu déroutante pour une triennale, puisque c'est vraiment une exposition de musée. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une relecture d'accrochage qu'on aurait pu voir à Beaubourg, et qui prend le parti de dérouler toute l'histoire de la modernité de 1945 à 1989, qui serait une modernité plutôt européenne, plutôt française, et mise au contact de ses racines vernaculaires et industrielles. Donc c'est une exposition qui se base sur les riches collections existantes du lac et du FRAC pour essayer justement de relire cette histoire en enjambant la coupure à la fois de l'art avec l'artisanat et également la translation de la modernité de Paris à New York qui s'effectue au cœur des années 60.
Sarah Hillermeyer, moi je ne suis pas allée à Dunkerque. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux lieux principaux ou est-ce que c'est une exposition qui est partagée entre deux lieux?
Moi je dirais que c'est une exposition qui est divisée entre deux lieux, mais honnêtement j'aurais du mal là à me récapituler à qui revient quoi, exactement quelle partie. Ce qui est certain, enfin comme je rejoins complètement Ingrid, c'est que bon déjà sur les pièces en extérieur, il y en a 11 seulement qui sont de taille monumentale, donc dont certaines dans la grande halle. Donc en fait, on va dire sur les 200 œuvres en tout, plus de 200 œuvres qui sont présentées, c'est le gigantisme et la part congrue au sens propre du terme. Après, si je dis que c'est une exposition davantage qu'une triennale, comme le dit Ingrid, c'est parce qu'il s'agit davantage en fait de s'intéresser à l'histoire des rapports entre art et industrie depuis la fin des années 40 à nos jours, que de mettre l'accent sur la création actuelle. Alors que normalement, une triennale ou une biennale, on va dire dans les usages courants, c'est pour désigner des événements qui mettent l'accent sur ce qui se fait en ce moment, et par ailleurs qui mettent l'accent aussi sur la production d'œuvres d'art. Alors là, il y en a, j'ai calculé environ 6, je crois, qui ont été spécialement produites pour l'occasion sur 200 œuvres. Donc de ce point de vue-là, à mon sens, ça ne coche pas les cases, on va dire, de la triennale. Après, si vous voulez... Quand on entre plus dans le détail, cette histoire-là, elle est abordée sous différents angles, sous l'angle des matériaux par exemple, issus de l'industrie, avec par exemple l'acier, alors avec une très grande sculpture de Bernard Venet qui s'appelle « Effondrement » et qui consiste en des arcs d'acier empilés les uns sur les autres. Cette histoire-là, elle est également abordée sous l'angle des gestes et de la répétitivité, par exemple avec des peintures de Neil Toroni, qui consiste dans la répétition systématique du même geste minimal sur des toiles blanches, également sous l'angle de l'accumulation, justement avec des accumulations d'armements, comme par exemple des sécateurs et des brosses à dents électriques, et sous l'angle aussi de la sérialité et de la modularité avec les artistes minimalistes, qui est comme Donald Judd, par exemple, qui assemble des boîtes en métal les unes à côté des autres. Mais ce n'est pas tout, hein, y a d'autres aspects.
On va y revenir, peut-être. Florian Guettet, un premier mot. C'est vrai que quand on regarde la liste des artistes, c'est énorme, il y en a 200. On ne comprend pas exactement le rapport entre tous. Et surtout, le mot de gigantisme, on ne l'a quasiment pas utilisé. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est différent de la monumentalité, par exemple? Est-ce que c'est un biais pour rentrer dans cette énorme masse que constitue l'histoire de la modernité entre 47 et 89? Est-ce qu'il y a un sujet, en fait, à cette triennale?
Il y a des sujets, en fait. Il y a un sujet complètement réticulaire qui justement a un peu du mal à être contenu dans cette programmation en trois mouvements. Gigantisme, effectivement, si on s'attend à voir du minimalisme et du monumentalisme, et je pense qu'effectivement c'est un faux ami un petit peu stratégique, on va dire, ou diplomatique. Pour justement effectivement parler de certaines œuvres qui sont en extérieur ou la très belle proposition dans le hangar du FRAC, mais la plupart des œuvres ne répondent pas à cette définition là. En revanche, on a un sujet extrêmement vaste avec des vraies saillances, enfin des vraies propositions extrêmement saillantes à l'intérieur, vraiment des rapports historiques que moi je n'avais pas forcément fait, donc qui m'ont beaucoup instruit, on va dire. Moi je vois quand même une différence entre le lac et le FRAC. C'est vrai que bon, c'est pas les mêmes espaces, donc c'est pas forcément la même audace, les mêmes possibilités d'accrochage. C'est vrai que l'accrochage au FRAC m'a quand même un peu plus séduit. Mais au lac, j'ai trouvé aussi que c'était quand même très très proche, même s'il y a énormément de résonance et d'écho entre les différentes parties. C'est-à-dire que vraiment, il y a des artistes qui se retrouvent pratiquement sur les trois. Et ça, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir faire ces liens, que ce soit pas trop segmenté. Malgré tout, j'ai trouvé qu'au lac, il y avait quelque chose d'un peu plus presque pédagogique, historique, sur justement les liens entre art et industrie, à partir des collections de Gilbert Delaine, fondateur du LAC, avec notamment ces artistes, quoi, Georges Mathieu, Bernard Venet, François Morlet, qui font vraiment partie de ces collections, où on trouve un peu des choses attendues, quoi, effectivement, quels sont les matériaux qu'on a utilisés, comment ils ont commencé, les artistes, à s'intéresser au mécénat d'entreprise, et donc à collaborer avec Renault, avec des usines, ou comment l'électricité, l'automatisation a aussi inventer ses propres formes dans l'art contemporain, comment les objets de consommation courante sont devenus aussi un sujet. Donc tout ça, c'est un petit peu le quand même assez centralisé sur la partie du lac. Alors qu'on a du côté du FRAC des propositions qui me semblent plus singulières. Par exemple, dans le hangar, c'est vrai que c'est assez dirigé quand même. C'est une sorte de démonstration des matériaux qui sont arrivés, qui était la monnaie d'échange, on va dire, de l'Europe au tout début des années 50 et qui a permis de pacifier la région. Donc les échanges de charbon, d'acier. Donc on voit effectivement l'acier de Bernard Venet. On voit le textile qui est amené avec les sortes de bobines de cordes de Tatiana Trouvé. Même si elles n'ont rien à voir avec Dunkerque, ici, elles prennent un autre sens. Et puis, il y a le carton qui est présent aussi, énormément, avec cette œuvre d'un Portugais que je ne connaissais pas, qu'on a très peu vu, voire pas du tout en France, qui s'appelle Bunga, c'est son nom, et je crois que c'est Carlos pour son prénom. Donc là, on a presque une sorte de cartographie de ces innovations-là matérielles, qui d'un coup ont permis à la fois de pacifier une région politiquement, et aussi de créer un véritable mouvement européen artistique.
Sarah Lermeyer, vous disiez très peu de création. Dans ce qu'il y a de création, est-ce qu'il y a des choses intéressantes?
Ce qui a été produit spécialement pour l'occasion, oui, il y a notamment la sculpture de Nathalie Brevet et Hugues Rochette, hein, qui consiste en plusieurs containers qui sont empilés les uns sur les autres au bord d'un des, sur un des môles, et qui dans l'intérieur de laquelle circule de l'eau. Voilà, donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Mais après, pour revenir sur la notion, pardon.
Et c'est une sculpture visitante.
Oui, voilà. Mais pour revenir sur la notion de gigantisme, en fait, à mon avis, un des problèmes essentiels de cette exposition, c'est qu'en fait, il y a très peu de recul critique à l'égard de cette notion-là, hein, dans ses implications idéologiques, puisque très clairement, le gigantisme, ça marque un trait d'union finalement entre progrès, croissance et accumulation. En fait, ça va de pair avec une idéologie capitaliste qui est complètement à rebours des questionnements et des enjeux actuels qui porteraient plutôt du côté de la décroissance. Mais quand même, heureusement, il y a quelques pièces, mais je les trouve assez rares, hein, qui portent un regard justement sur ce que ça implique. Je pense notamment, parmi d'autres, à un film de Mika Rothenberg qui est présenté hors les murs dans une galerie qui s'appelle La Plateforme. Je me souviens plus, excusez-moi. Parfaitement du nom de ce lieu. En tout cas, il s'appelle Squeeze, ce film-là, et il montre, comme dans tous les films de Mika Rothenberg, eh bien, une chaîne de production absurde, dans la mesure où elle mobilise, parce qu'elle veut tout mobiliser, même les corps dans leur entièreté, comme par exemple la sueur, les fesses, les cheveux, qui deviennent des éléments d'une machinerie qui produit sans fin des éléments de consommation qui deviennent aussitôt des déchets. Donc ça, je trouve que c'est par exemple une dimension intéressante, plutôt critique. Il y a aussi des pièces, des films de Julien Prévieux qui sont, je trouve, assez intéressants et qui apportent une distance par rapport à ce thème-là.
Ingrid Lukegan.
Oui, moi j'ai trouvé que c'est quand même un questionnement qui est très contemporain. On a plusieurs expositions qui montrent un peu qu'on commence à avoir le droit de parler de design et de parler de questions un peu plus industrielles, des questions de production et de matérialité. Ces histoires matérielles, on la voit surtout à travers des solo shows dans les institutions. L'exposition Victor Vasarely au Centre Pompidou en témoigne, puisque là on a un Vasarely qui est vraiment présenté en lien avec Renault, en lien avec les pochettes de disques, en lien avec les studios de télévision. Encore une fois, c'est une exposition solo, donc je pense qu'vraiment une relecture des collections du Centre Pompidou aurait pris beaucoup plus de temps, et que la Triennale est peut-être l'excuse pour implanter ce travail de recherche-là dans une temporalité plus courte, puisque c'est aussi une Triennale qui en grande partie est financée par du mécénat d'entreprise. On a aussi au même moment l'exposition Patterns and Decoration au Consortium, mais qui elle revient vraiment sur une période très spécifique, qui sont les années 70 aux États-Unis. Et pour en revenir à l'exposition, moi j'ai trouvé que c'était justement au Lac que ça fonctionnait le mieux, puisque c'est vraiment
le Lac,
des petits ensembles.
Lieu d'art et d'action contemporaine. Hein.
Ouais. Peut-être aussi par rapport à la disposition spatiale du lieu, hein, qui permet de faire vraiment des toutes petites salles. Il y a une salle notamment très réussie, qui fait un trait d'union entre le travail sur le signe des lettristes, notamment Isidore Isou, hein, donc qu'on a vu au Centre Pompidou, qui était vraiment très actif en France, par rapport à la poésie concrète également de Bernard Heitzig, et qui met ça en rapport avec les pictogrammes d'autoroute de quelqu'un qu'on connaît peu, mais qu'on a tous vu, qui s'appelle Jean Widmer, et donc qui, dans les années 70, a dessiné toute la signalétique qu'on connaît pour indiquer les points de vue, les planches à voile, les cyclistes ou les thermes, pour prendre quelques exemples exposés.
Et cela met en lien avec Vera Molnar. et Léorine Nemours qui sont à côté, je trouve que c'est un rapprochement heureux. Effectivement, il n'y a pas tout n'est pas à jeter. Non, mais effectivement, moi, je, en fait, quand même, quand je suis arrivée avec, non pas des attentes, mais des projections, comme on arrive souvent, je me disais quand même que l'industrie aujourd'hui, c'était difficile de l'aborder sans aborder la question écologique, sans aborder la question sociale des travailleurs.
Dans ce territoire-là,
etc.
D'autant plus.
Et en plus, dans un, voilà, un territoire qui souffre aussi de désindustrialisation. Et finalement, c'est pas du tout le cœur du projet. Alors, ces questions ne sont pas complètement absentes, elles sont effectivement beaucoup dans la sélection vidéo hors les murs. Elles sont aussi dans des voilà des programmes de performance, mais elles sont pas du tout au cœur de du projet. Alors peut-être aussi parce que c'est une première édition et qu'il faut en laisser pour les années à venir, les décennies à venir, et on lui souhaite. Mais en attendant, c'est vrai qu'on a quand même quelque chose de très implanté sur une histoire de la modernité, notamment alors dans au FRAC, cette histoire des petits papiers découpés de Matisse et donc de cet héritage dans le minimalisme européen, de tous ces peintres de courant très différents, qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui ont travaillé d'une façon ou d'une autre sur une sorte de sérialisme des motifs. Alors ça va effectivement de Thoreauni à Noël Dollard, en passant par Viala, Bernard Pagès, Antaille, Louis Kahn, et un Belge, Guimès, que je ne connaissais pas. Mais et l'installation en elle-même est tout à fait pertinente. Et puis sur la question du design, qui est quand même le fort des collections du FRAC, hein, c'est vraiment un choix de institutionnel. Il y a aussi ce lien entre comment la diffusion et la production, on l'a dit, mais comment la diffusion aussi des œuvres d'art a été portée par les industries, notamment les industries du design, à la fois dans les intérieurs de collectionneurs et les magazines spécialisés qui photographiaient ces mêmes installations. Et là, on a une reproduction comme ça d'un salon un peu design des années 50-60 avec un Hans Hartung au mur qui recontextualise en fait ces passages-là.
Sarah Lermeyer.
Oui, il y a quand même un point que, enfin, parmi d'autres choses, hein, c'est quand même une belle, on va dire, exposition muséale qui retrace bien finalement les rapports entre art et industrie des années 40 à nos jours. Mais c'est vrai que, bon, comme je disais, je trouve que ça manque un peu de recul critique par rapport à la notion de gigantisme. Néanmoins, il y a un élément, enfin, il y a un point que je trouve assez intéressant, c'est le fait que le passage d'une société industrielle à une société post-industrielle est quand même marqué, même si c'est la part congrue de l'exposition, hein, donc c'est-à-dire en fait, le passage d'une économie qui est basée sur l'extraction et l'exploitation des matières premières à une économie qui serait plutôt basée sur le traitement de l'information et de la connaissance. Donc c'est à travers différentes œuvres. Je parlais tout à l'heure de Julien Prévieux, qui a plusieurs films qui sont montrés, notamment What Shall We Do Next et Patterns of Life, où en fait, il montre le passage d'une science du mouvement, c'est-à-dire l'analyse, la décomposition et la classification des mouvements humains, à un capitalisme des mouvements qui consiste à rentabiliser et à optimiser les mouvements et les gestes humains au service de l'industrie, aussi bien du secteur secondaire, hein, que du secteur tertiaire, notamment avec le fait de breveter des mouvements de la main et des doigts par les industries du digital. Il y a aussi une autre pièce qui est très bien quand même, celle de Liam Gillick, qui consiste en différents diagrammes qui sont alignés les uns derrière les autres et qui constituent une sorte de paysage un peu lointain et qui sont liés dans son esprit à un groupe d'ouvriers fictifs qui chercheraient à développer une économie alternative suite à la fermeture de leur usine et qui consisterait cette économie non pas à produire un objet mais à produire une idée. Et ça montre très bien la bascule justement d'une société industrielle à une société post-industrielle.
Bon, beaucoup de choses à voir, hein, vous l'aurez compris au début de Sarah, dans gigantisme, art et industrie, donc cette nouvelle triennale qui se tient jusqu'au 5 janvier à Dunkerque dans plusieurs espaces de la ville. Et c'est l'heure du coup de cœur, et c'est celui d'Ingrid Lukegat pour une exposition qui se tient en ce moment à Béton Salon à Paris.
Alors tout le propos de cette exposition de Jean-Charles Le Quillac, c'est de faire de la sculpture, mais de faire la sculpture différemment. Lorsque j'ai commencé la visite avec lui, il m'a raconté une anecdote de Dan Graham, qui est donc ce grand sculpteur minimal, qui est vraiment le sculpteur par excellence, un sculpteur homme blanc qui fait tenir des matériaux industriels dressés en l'air. Et ce même Dan Graham, il y a une pièce qu'on connaît très peu de lui, qui est vraiment un tout petit insert dans le journal, où il demande à des scientifiques de lui expliquer le processus de détumescence. C'est-à-dire, on a beaucoup expliqué pourquoi les choses se dressaient, mais peu comment elles redescendaient. C'était en 67. Jean-Charles Le Quillac a construit toute son exposition autour de ça, c'est-à-dire comment être sculpteur sans dresser des choses dans l'espace. Donc à Béton Salon, il nous présente une véritable ode à la détumescence, qui est aussi une ode à la désidentification. C'est-à-dire qu'il va, il va beaucoup travailler sur les hormones, il va enduire toutes sortes de tubes et de matériaux dressés à l'horizontale, de toutes sortes de substances. Donc ça peut être autant de la nicotine, du Viagra que du déodorant Axe, en disant qu'au final une sculpture ce n'est pas tant ce qui tient dans l'espace, mais ce que nous on peut tenir dans la main. Une sculpture de même pour lui n'est pas tant le sujet du regard, mais plutôt le sujet de la contamination. C'est-à-dire que chez Jean-Charles Le Quillac, quand on s'empare d'un de ces objets ou qu'on les frôle, on se retrouve nous-mêmes contaminés et mis dans cette circulation du désir, d'un désir qui n'est plus tant attaché à des corps sexués, à des corps genrés, mais qui pénètre véritablement dans la matière. Donc pour moi, c'est vraiment une manière de faire de la sculpture différemment, c'est-à-dire non pas de l'abandonner pour l'assemblage, clin d'œil à Théo Mercier, mais de voir comment on pourrait dégenrer la sculpture et la faire passer de son côté pharmacologique. Évidemment, il y a une grande référence à la déconstruction et à cet élève du pape de la déconstruction que fut Paul Preciado, puisque Jean-Charles Le Quillac s'est vraiment beaucoup inspiré de ses recherches sur la biologie, sur le biogenre et sur le dépassement justement de ses corps sexués, et nous en propose une transcription dans l'espace. Pour appréhender son exposition, il faut donc se faire fétichiste, c'est-à-dire apprendre à regarder non pas les corps, mais des morceaux de corps, et à faire circuler le désir entre différents organes comme entre différents fragments de sculpture.
Vous aurez remarqué que je vous avais laissé le soin de dire le nom de l'exposition que vous n'avez pas dit, parce que moi j'avais peur de la coquille. Ma système reproductif, donc, le ma. De Jean-Charles de Quillac, c'est visible à Bédon Salon, donc à Paris, dans le 13e arrondissement, jusqu'au 7 juillet prochain. Mais c'est le petit salon, et c'est Boris Pinault qui tient ce soir mon petit salon. Bonsoir Boris.
Bonsoir.
Ce soir, voir en l'absence de l'œuvre.
Oui, on peut voir en ce moment au musée Capodimonte de Naples une exposition Caravage qui retrace les quelques mois passés par le peintre dans la cité au début du XVIIe siècle. Les expositions consacrées au maître rencontrent à tous les coups un franc succès. Le public est toujours avide de voir ses œuvres en vrai. Mais on regrette ici un grand absent. Les sept œuvres de Miséricorde est un grand tableau qui devait à l'origine accueillir les visiteurs à l'entrée de l'exposition. Il met en scène plusieurs sujets au coin d'une rue napolitaine. Deux hommes qui portent un mort, une femme qui rend visite à un prisonnier, un homme qui donne son manteau à un mendiant nu. Au dernier moment, le ministère de la Culture a mis son veto sur le déplacement de l'œuvre conservée dans l'église Piemonte della Misericordia, située à seulement 2 km du musée. La décision fait suite à une campagne menée par des historiens et critiques d'art qui visait à dénoncer les dérives des expositions stars pour lesquelles on retire les œuvres de leur lieu d'origine. Mais on n'entrera pas dans les détails de la polémique, non. Ce qui nous intéresse, c'est la solution mise en place par le musée pour pallier l'absence de l'œuvre du Caravage. Les sept œuvres de Miséricorde est remplacée par des images haute résolution capturées par l'Art Camera, un appareil photo robotisé développé par Google, auquel, paraît-il, aucun coup de pinceau ni effet de texture n'échapperait.
Alors, autre lieu, autres œuvres.
Oui, plus près de chez nous, le Centre Pompidou, à Paris, accueille jusqu'au 5 août une rétrospective du duo de photographes Chunk Kender, qui a notamment photographié la performance dans les années 60. Dans la section Corps en action, on trouve des clichés fameux d'œuvres non moins fameuses, entre autres Martha Minourine brûlant ses dernières œuvres sur un terrain vague, Christo exposant sept femmes nues empaquetées. Plusieurs clichés pour chaque performance permettent de se figurer l'expérience. La photographie a ici en quelque sorte une valeur documentaire et mémorielle. Au musée Capodimonte, face aux images haute résolution du Caravage, on serait presque tenté de parler d'une reproduction. Certes, ce n'est pas exactement la même chose, mais ces deux expositions me permettent de vous poser la question suivante. Peut-on vraiment faire l'expérience d'une œuvre d'art en son absence ?
Florian Guettet, Mallarméen, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Déjà, on a deux cas différents. On a d'un côté, non pas une absence d'œuvre, mais une présence d'œuvre par la médiatisation d'une reproduction. Donc qui dit en gros beaucoup plus l'impossibilité de présenter en gros une exposition à la hauteur de ses ambitions. Et puis de l'autre côté, on a des œuvres d'art vivants en fait qui sont représentées sur des reproductions qui ont en fait valeur de documents, c'est-à-dire qui sont comme des traces. Et c'est pas la même chose parce que dans la danse, la performance, ben on sait très bien, c'est un éternel débat, mais que la fugitivité, le caractère fugitif de l'œuvre nécessite quand même que on trouve des moyens d'accès, alors que la question ne se pose pas de la même façon pour les reproductions de peinture. La question qui se pose, c'est de savoir si le double suffit à poser les conditions d'une rencontre. D'une rencontre entre le public et l'œuvre. Est-ce que ça déplace l'expérience? Est-ce que ça l'enrichit? Ou est-ce que ça l'appauvrit? En fait, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps et qu'a déjà posé Walter Benjamin. C'est-à-dire que dans l'œuvre, à l'époque de sa reproductibilité technique, il se demande est-ce que finalement la reproduction, c'est un substitut satisfaisant à ce qu'il nomme l'aura, c'est-à-dire l'authenticité, l'unicité de l'œuvre, sa singulière présence. Alors évidemment, Benjamin condamnait tout ça. Moi, je suis plutôt un puriste de ce point de vue-là. Effectivement, quand on n'est pas dans le hic et nunc de l'œuvre, quand on est dans la reproductibilité, ben on abdique une partie de l'expérience. Il me semble que ce qui est plus dangereux en fait de la danse, c'est que ça change véritablement les conditions de perception et notre expérience de visiteur. D'une part, parce que ça nous coupe de l'expérience collective du public, et puis d'autrement, parce que ça renforce, on va dire, l'opticocentrisme, c'est-à-dire le fait de prendre pour référent l'œil, le regard et les images. Sauf que le regard, il n'est pas que optique. Le regard, il est aussi haptique. Le regard, il touche. Le regard, quand il est face à une œuvre de peinture, il a aussi des questions de texture, de sensualité qui viennent, de profondeur, de relief, qui n'existent pas avec l'image. Donc moi, cette mise à plat-là, elle me fait peur. On la voit de toute façon se répandre. Donc je pense qu'on pose la question aujourd'hui, mais on la posera encore dans 50 ans et de façon beaucoup plus radicale.
Et elle se pose aussi de manière positive. Quand on a eu une exposition sur Guernica sans Guernica, ou
c'était
alors
deuxième,
des lieux, voilà. Mais là, du coup, votre alternative, en fait, elle se développe largement et avec des questions de politique culturelle derrière. Ingrid Lukegan.
Alors moi, j'ai l'impression qu'il faut aussi poser la question du point de vue de l'artiste et se demander est-ce que l'artiste a pu prendre en compte ce paramètre-là. Parce que, dans le cas des performances qu'on voit documentées au Centre Pompidou, dans les années 60, c'est quand même l'apparition de cette question-là, justement, de la documentation de la performance, où les artistes peuvent vraiment performer pour la caméra et se poser la question de la trace qu'ils veulent laisser de leur performance. Pour prendre un exemple encore plus contemporain, on sait très bien que toutes les œuvres et les installations qui ont été produites dans les années 2010 ou à partir de la fin des années 2000, prennent en compte la question de la vue d'exposition, qui maintenant est devenue un genre en soi d'étude. C'est-à-dire qu'un artiste, il va aussi malheureusement ou pas, parce que ça lui permet de regagner justement le contrôle sur ce paramètre-là, il va aussi concevoir son exposition en fonction des vues d'exposition. Puisqu'on sait très bien qu'une exposition dans un petit centre d'art existe aussi par les vues d'exposition qu'on va pouvoir en produire. C'est ce qu'on voit quand un site comme Contemporary Art Daily est un site non pas de critique, mais vraiment de vues d'exposition, de photos d'exposition, qui témoignent de la mondialisation de l'art et peut-être d'une mondialisation heureuse, puisqu'une toute petite exposition dans un petit centre d'art peut se retrouver sur ce site aux côtés d'une exposition dans les plus grands centres d'art. Donc je pense qu'il faut aussi se poser cette question-là, de savoir si l'artiste a pu le prendre en compte ou non. Et on voit justement apparaître au cœur des années 2010 des artistes qui jouent vraiment sur ce paramètre-là, notamment en France, l'expo d'Artifière Kant aux Beaux-Arts de Gennevilliers, qui refusait qu'on fasse des vues d'exposition de son œuvre, non pas pour inciter les visiteurs à venir voir son expo, mais pour pouvoir à son tour diffuser de fausses vues d'expo manipulées de son exposition.
Sarah, il est un meilleur.
Oui, cette question-là, justement, moi, je dirais même qu'elle remonte plus loin, parce que, dans l'art contemporain, il me semble, en tout cas, qu'il y a surtout autour des années 80-90, des productions dont finalement l'expérience à travers leur reproduction pouvait suffire, dans la mesure où il s'agit d'œuvres qui sont essentiellement des concepts visuels. Et une fois qu'on a saisi, on va dire, de manière optique, les formes assemblées et les symboles dont elles sont le support, en fait, l'expérience est suffisante. D'autres œuvres pour lesquelles une reproduction photographique ne sera jamais suffisante, puisque l'expérience directe et physique sera nécessaire. Et je crois que c'est le cas, par exemple, pour l'œuvre du Caravage, Sauvage, dont on verra simplement une reproduction au musée Capodimonte. En ce qui concerne, c'est vrai, les photographies de Schunk et Kander, c'est tout à fait différent, parce que ce sont des photographies d'événements et de performances par définition éphémères et de nature quasiment immatérielle. Ce qui est assez paradoxal, par contre, dans le cas de ces pratiques-là, c'est qu'elles ont voulu, en fait, échapper quelque part à l'objet marchandise, hein, justement en étant éphémères, en étant quasiment de l'ordre de l'immatériel, pour finalement eh bien, y retourner sous la forme de photographie. Donc c'est là où il y a quand même un paradoxe avec la photographie de ce type de production. Après, pour rebondir sur ce que disait Florian par rapport à Benjamin, qui considérait que la reproduction photographique, eh bien, annule, finalement, atténue l'expérience du monde, et notamment des œuvres d'art. On pourrait lui opposer André Malraux, évidemment, avec le Musée Imaginaire, qui considère au contraire que la photographie permet d'extraire l'œuvre de son contexte et de la faire d'autant mieux vivre en la mettant en confrontation avec d'autres productions. Voilà.
Oui. Florian Guettet, j'avais marché sur votre grand 2, allez-y.
Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, elles ont un intérêt esthétique, historique.
Bah, elles font œuvre en elles-mêmes.
Alors, c'est différent. Par exemple, effectivement, comme le disait Ingrid, il y a des œuvres qui, intentionnellement, vont être proposées à la reproduction. Je pense à Babette Mangold avec Yvonne Reiner. Ce sont des œuvres en elles-mêmes, quoi. Et là, la question de la trace de document ne se pose pas du tout. C'est une œuvre artistique. Maintenant, sur la question vraiment de la reproduction, je lisais il y a peu de temps des critiques de la fin du 19e siècle qui s'interrogeaient sur le non-finito, notamment chez Michel-Ange, et qui se disaient que précisément, en fait, c'était par la capture photographique qu'ils arrivaient à saisir des modelés et des jeux de lumière qui, dans l'expérience, étaient beaucoup trop subtils. Et puis, il suffit, en fait, que la lumière soit pas bonne pour qu'on passe complètement à côté de ça. Donc, effectivement, il y a quand même une plus-value. Après, moi, je me demande, d'un point de vue de curatorial, quand on expose une non-œuvre, s'il n'y a pas aussi des protocoles à chercher. Moi, il y a deux œuvres qui me sont venues à l'esprit. La première, c'était les Extrasis de Camille Lobé, c'est-à-dire quand on décrit l'œuvre de façon discursive, verbale, et qu'on laisse ce discours devenir un stimulant pour l'imagination du spectateur. Je trouve que c'est un procédé intéressant. Et puis je me rappelle aussi d'une sorte de passation, de médiation qui se faisait entre les spectateurs eux-mêmes, qui a été mise en place par Xavier Leroy et Scarlett Yu. C'était la performance au Tripostal où justement on ne voyait pas les œuvres. D'abord, on les appréhendait par le discours de l'autre, et ça créait aussi une sorte de lien social. Donc, plutôt que essayer de combler une absence, peut-être aussi déplacer cette absence pour en faire quelque chose de beaucoup plus fertile.
Là, vous vous placez du point de vue, vous le disiez, du curateur, mais du point de vue du public, est-ce que c'est grave et qu'est-ce que ça veut dire de dire c'est grave de ne pas voir l'œuvre, la vraie? Et de voir une reproduction, une grille de Luc Gade. C'est presque une question d'éthique.
Je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure. Quand on parlait du Caravage, bon, on peut encore convoquer Benjamin, qui nous parle du microscope et du caméscope, en disant que ce sont deux types de visions qui sont absolument inaccessibles à l'œil humain, puisqu'on ne peut pas voir les infimes détails, et on ne peut pas non plus faire des plans ralentis ou accélérés comme pourrait le faire le caméscope. Donc là, on est dans une vision qui dépasse ce qu'aurait pu encore une fois avoir l'intention de produire l'artiste. Et au contraire, dans les années 60, je pense qu'il faut absolument laisser à l'artiste la possibilité de jouer sur cette déception-là. On a un autre artiste qui est exposé en ce moment à Paris, à la galerie R de Paris, qui s'appelle Wolfgang Steuerschelle. Et lui qui était actif dans les années 70, au tout début des années 70, et sa première performance va être de traverser les États-Unis de Toronto jusqu'à Los Angeles en cheval avec son frère. Donc c'est une traversée qui dure 10 mois et dont il ne filme que la dernière minute d'arrivée. Donc chez lui, il y a effectivement cette manière d'inscrire dans la technologie de reproduction même justement la déception par rapport à une performance qui ne pourrait être expérimentée qu'en personne et seulement par l'artiste qui se trouve sur ce cheval.
Boris.
Oui, à l'ère des visites virtuelles de musées, il y a beaucoup de musées qui ont numérisé déjà leurs collections. Je me demandais, c'est sûrement certainement un peu provoquant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi désormais de fétichiste, de l'ordre du fétichisme à se rendre physiquement au musée? Qu'est-ce qu'on attribue à l'œuvre d'art? En deux mots, j'imagine. Parce que
Sarah, en deux mots.
Non, je ne pense pas que ce soit. Enfin, on attribue tout simplement la question de l'expérience, la qualité d'expérience en présence directe. Hein, sinon, sentez que tout ne se joue pas, comme disait Florian, dans l'œil. Il y a aussi une relation finalement physique et haptique qui se joue dans la confrontation directe avec une œuvre d'art.
Oui, et puis si ça permet de dispenser, enfin si ça autorise les gens à dispenser d'aller au musée, oui, on peut s'en alarmer. Et puis faut penser aussi c'est-à-dire du moment où on rentre dans la reproduction, il y a des dispositifs de spectacularisation, l'atelier des lumières, Van Gogh à la Villette, etc., qui déforment complètement l'appréhension de l'œuvre. Enfin, on dit on n'a plus du tout affaire à une œuvre d'art.
Bon, on en reparlera, je pense. Il est temps de refermer les portes du petit salon. Et avant de conclure cette émission, c'est le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et puis nous donner la réponse.
La question était: quel personnage Marvel incarné au cinéma par Edward Norton, le dessinateur Jack Kirby a-t-il créé dans les années 60? Et la réponse était Hulk.
À gagner ce soir des invitations pour l'exposition Le mobilier d'architecte de 1960 à 2020. C'est jusqu'au 30 septembre à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Quelle est la question, Joséphine?
Quel musée créé à l'initiative de Viollet-le-Duc en 1882 peut être considéré comme l'ancêtre de l'actuelle Cité de l'architecture et du patrimoine?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. À la prise de son ce soir, Morgane Danan. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de l'émission. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. Je serai en compagnie d'Elisabeth Philippe, de Jean-Christophe Brianchon et François Angelier avec un programme très affrontement des deux blocs puisque nous parlerons de New York et de Moscou avec trois livres: East Village Blues de Chantal Thomas aux éditions du Seuil, une version artistique de la réunion de couture de Cookie Muller paru chez Finitude, Koba de Robert Little chez Baker Street, et puis le coup de cœur sera le mien et sera très porno avec Glory Hall de Frédéric Jacquot paru aux Arènes.
France Culture, l'esprit d'ouverture.